Bon, bonjour Hugues.
Bonjour David.
C'est rigolo parce que ça fait une demi-heure qu'on tchatche et maintenant je te dis bonjour comme c'est honnête de se rencontrer et je trouve ça toujours hyper artificiel les podcasts, ça me saoule. Mais
C'est
quand
très
même
artificiel,
bonjour.
mais c'était l'échauffement.
Ouais.
Bonjour David.
Ouais, je te remercie de prendre le temps de discuter avec nous ce matin. Si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu te présentes avec tous les détails que tu veux. Histoire qu'on situe le personnage et qu'on voit après comment on aborde tes sujets de prédilection.
D'accord, ben écoute, merci David de m'inviter, ça me fait très plaisir. Tu sais que j'aime bien passer du temps avec toi et discuter. Donc
Bah
en
pareil.
fait, pour moi, ce matin, c'est quand même avant tout un moment de plaisir. Donc je m'appelle Hugues Deschiraux, j'ai 52 ans, je crois, il me semble, parce que j'ai arrêté de compter. Donc j'ai un parcours qui est essentiellement militaire. Donc j'ai 29 ans de service et j'ai fait une carrière d'abord dans l'infanterie. Donc j'ai fait 17 ans dans l'infanterie. L'infanterie, pour ceux qui connaissent pas, ça arrive, c'est les combattants à pied, voilà, qu'on appelle l'arme des 300 derniers mètres et ils montent la garde, ils montent à l'assaut, ils descendent les poubelles, ils font un peu tout. Voilà, c'est des outils un peu à tout faire, les fantassins. Non, c'est le combat à pied. Donc ça consiste à commander des personnes, à les entraîner, à les instruire, à les former, à les comprendre. Pourquoi? Pour les envoyer souvent à l'autre bout du monde, pour servir des intérêts qui les dépassent, parfois qui les desservent, avec le sourire. Donc il y a un petit ingrédient secret sur la motivation, le leadership, le management. Voilà, on en parlera peut-être.
Yes.
C'est l'ingrédient secret des armées qui amène les gens à servir. Voilà, donc j'ai fait d'abord 17 ans dans l'infanterie en tant qu'officier, c'est-à-dire qu'on rentre, on commande 30 personnes, et puis on peut, pour ceux qui vont jusque chef de corps, on peut en commander 1000. Moi, je me suis arrêté à 150, 180 en tant que commandant d'unité. Donc voilà. Et après j'ai fait quoi? Après je suis parti. Et ça c'est aussi la magie de l'armée. Passer un diplôme technique en psychologie. Donc je suis parti à la fac de Nanterre Paris 10. C'est-à-dire que je suis passé de commandant d'unité, grand maître de ma place d'armes, à parler devant 50 personnes, à étudiant au milieu des autres. C'était une superbe expérience. Donc j'ai étudié la psychologie sociale. Je me suis spécialisé en influence, communication persuasive. Voilà, influence sociale. Donc, je suis psychologue social du travail et des ressources humaines. Mais ma spécialité, mon expertise, c'est l'influence sociale et l'influence en général. Je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là. À l'issue de mon diplôme technique, j'ai rejoint le commandement des opérations spéciales où j'ai servi pendant 4 ans. Donc, le commandement des opérations spéciales, c'est un état-major qui commande les forces spéciales en opération. Pour remplir des missions plutôt sensibles, plutôt confidentielles, dont on attend des effets stratégiques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on le confie au commandement des opérations spéciales, parce que ce sont des équipes à faible empreinte, avec un haut niveau de technicité, qui permet de prendre des risques plus importants pour le politique. Et avec un haut degré de confidentialité, le commandement des opérations spéciales, ce n'est pas le service action de la DGSE, ce sont deux entités différentes, je tiens à le préciser. Donc j'ai servi pendant 4 ans là-bas à la division des opérations. Puis au bout de ces 4 ans, je suis parti à l'OTAN, au PC des forces spéciales de l'OTAN, qui maintenant s'appelle le SOFCOM, où j'ai fait donc 3 ans au sein de l'Alliance avec 32 nations. Voilà, 32 nations. Et le SOFCOM, c'est un état-major qui... Il n'y a pas de forces spéciales à l'OTAN, mais il y a des pays qui ont des forces spéciales qui peuvent mettre à disposition de l'OTAN. Donc dans ce cadre-là, ces forces spéciales doivent remplir les standards OTAN. Donc le SOFCOM, il a un volet entraînement, mais c'est aussi le conseiller stratégique. Le SOFCOM est le conseiller stratégique du SACUR, donc c'est en fait celui qui commande les forces de l'OTAN. Donc il y a un volet conseil stratégique, il y a un volet entraînement, certification. Voilà, c'est un état-major très intéressant. On y découvre la stratégie, enfin moi en tout cas la stratégie au niveau multinational. On y découvre des personnes, donc c'était vraiment très bien. Et j'ai fait deux choses là-bas. J'ai travaillé beaucoup sur la guerre cognitive et l'hybridité, ce qu'on appelle l'hybridité, c'est-à-dire comment on mixe des menaces, enfin des actions diplomatiques, économiques, enfin dans tous les champs politiques, militaires, de désinformation, pour produire des effets. Donc voilà. Et j'ai aussi été chargé d'accompagner, de conseiller dans le cadre de la transformation de cet état-major, puisque c'était un état-major qui était plutôt dans ses dernières missions tournées vers l'Afghanistan, voilà, et qui, je pense que tout le monde a suivi l'actualité, il s'est passé des choses en Ukraine, et ben a dû quand même, l'OTAN et donc le SOFCOM a dû réévaluer les menaces et se transformer. Donc à ce titre, j'ai suivi la transformation. Et là, aujourd'hui, le 1er décembre, je quitte l'armée. Donc voilà, comme ça, on a tout mon parcours. Et je crée une société qui est spécialisée dans la conduite du changement. Et je pense que j'ai tout dit.
Et je pense que tu as un sacré background pour faire de la conduite du changement, pour le coup, parce que si tu as participé à faire bouger une aussi grosse machine que l'OTAN, je pense qu'il y a, il y a moyen que tu aies fait tes preuves.
Disons que j'y ai contribué à mon petit niveau. Et puis, pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi, en fait, j'ai une passion ou j'ai une appétence pour la conflictualité. Donc, je l'ai fait dans le monde militaire, mais j'aime aussi les arts martiaux, mais ça, comme tu le sais, qui est un autre volet. À cette occasion, je suis parti 27 fois au Japon et je m'entraîne depuis 30 ans. Et donc, je suis un grand débutant. Voilà.
Franchement, je trouve ça magnifique qu'après 30 ans de pratique, on se considère comme un débutant. Et ça, déjà, ça, pour moi, enfin, c'est un des premiers trucs que tu m'as dit quand on s'est rencontrés, que tu apprenais toujours et que tu es toujours dans l'esprit du débutant. Et je trouve ça génial parce que soit on progresse, soit on régresse, en gros, et tu progresses toujours. Du coup, voilà. Et je sais que t'aimes pas te vanter, etc. Donc, je vais pas raconter les anecdotes dont tu m'as fait part à base de tahitien et de trucs comme ça, mais je sais que t'en as sous le pied et que t'en dis pas beaucoup, évidemment. Tu sais que la conflictualité et l'hybridité sont aussi des sujets qui m'intéressent, pour plein de raisons. On a déjà parlé un peu de ça, toi et moi, mais j'aimerais bien que, si t'es d'accord, tu me fasses un peu un topo de ton point de vue de ce qui se passe là aujourd'hui autour de l'Ukraine, mais aussi autour de la Chine, autour de tous les sujets qui te semblent intéressants, des États-Unis. Bref, on en est où, nous, en tant que Français, là, on en est où dans le monde par rapport aux enjeux d'influence, à la guerre hybride, à tout ça, et comment ça se passe?
Je vais te donner mon petit point de vue là-dessus. Après, moi, mon expertise, c'est vraiment... En fait, il y a différents niveaux d'influence, mais on va les aborder. Et puis après, je rentrerai plus dans mon... Pas dans mon cœur de métier, mais dans mon cœur d'expertise. Ce que je peux constater aujourd'hui, et je pense que tout le monde le constate avec son bon sens, c'est que l'information a toujours été un enjeu et potentiellement une arme pour les États, pour les individus, mais que les moyens de diffusion et les moyens de relais, et aussi les processus qui vont autour de cette information, eux n'ont jamais connu d'équivalent. Et donc aujourd'hui, une information, ça n'est pas un fait. Une information, c'est une donnée qui est présentée sous un certain angle et qui va être interprétée par les personnes qui vont la lire. Et c'est pour ça que moi, j'ai écouté d'autres podcasts très intéressants. D'ailleurs, je les donnerai peut-être après, je te les enverrai peut-être, qui expliquent ça très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les experts en influence, ils appellent pas ça une information, ils appellent ça un contenu. Parce qu'en fait, on n'est pas capable de dire si cette information, elle est vraie ou elle est fausse, puisque ça veut dire qu'on parle en fait finalement du réel, de la réalité des faits. Et donc, pour moi... la désinformation, la mésinformation, la manipulation, c'est comment on arrive à pervertir la réalité des faits intentionnellement. Voilà. Donc ça, c'est potentiellement la volonté d'acteurs. On les appelle les acteurs, on peut les appeler les compétiteurs, des fois certains États, qui ont une doctrine d'emploi de l'information ou de la désinformation. Alors, après, je pense que c'est des choses qui sont dans le vocabulaire commun. Ça, c'est appelé les opérations psychologiques. Ça peut s'appeler les affaires publiques. C'est comment on travaille les opinions, comment on travaille les perceptions pour obtenir un effet. Alors, t'as fait un excellent podcast que je vous invite à écouter sur Sun Tzu. Je pense que l'analyse de Sun Tzu explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que le travail avec l'information dans la sphère informationnelle, c'est de préparer le terrain pour gagner la guerre. Et donc je vais revenir à ta question, hein. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a des acteurs, et je vais vous encourager à lire un très bon ouvrage qui s'appelle « La faille dans l'armure de nos démocraties » ou je ne sais plus ce que c'est le titre, « Démocratie en danger ».
Ouais, ils l'ont renommé démocratie en danger.
Ah voilà,
Alors c'est le moment où vous me détestez et où je coupe cette interview en plein milieu, enfin pas en plein milieu, en fait après 10 minutes tout pile, et où je vous invite à venir nous rejoindre sur le Patreon du Survivologue Underground, patreon.com/davidmanise, où je vais poser des analyses, des outils et évidemment des interviews comme celle-ci que je réserve pour les abonnés du Patreon. Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est des sujets plutôt sensibles qui sont qui me valent d'être shadowban sur tous les algorithmes où je me pose. La liberté, pour le coup, et la protection de nos esprits contre la manipulation font pas vraiment bon ménage avec les algorithmes divers et variés. Donc, je réserve ça à des endroits où vous allez payer, du coup, pour avoir accès au contenu sans que ce soit vous le produit. C'est aussi une manière pour moi d'avoir un backup, ok? Et donc, si vous regardez sur le Patreon, vous verrez que les abonnés ont accès à l'intégralité des podcasts du Survivologue qui sont accessibles déjà en public. Pourquoi? Parce que ça me fait une copie de sécurité, ça me fait un plan B pour pouvoir vous parler, en fait, pour pouvoir discuter avec vous et pour pouvoir échanger. Sans être à la merci des algorithmes, sans être à la merci des grands groupes, et pour pouvoir vraiment avoir une liberté d'expression totale sans craindre de perte de visibilité, de perte de revenus pour le coup, parce que, évidemment, comme mon boulot c'est de faire des stages et des formations, si je me retrouve bas et très très en bas des résultats de recherche sur toutes les plateformes, et si mes contenus sont pas mis en avant par les plateformes, ça me coûte vraiment du pognon et j'ai du mal à joindre les deux bouts à cause de ça. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur le Patreon pour continuer d'écouter cette interview de Hugues. Je vous invite aussi, si vous ne pouvez pas payer vraiment, que c'est un problème de donner 5 euros par mois pour ces contenus, dites-le moi et je trouverai une solution. Le but n'est pas forcément de faire beaucoup de sous. En vrai, si j'avais voulu être riche, il y a longtemps que j'aurais arrêté tout ce que je fais et je me serais mis à la sécurité ou à l'analyse prospective pour les grands groupes. Le but n'est pas ça. Voilà, donc patreon.com/davidmanise et on vous y attend. Allez, ciao!